L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une défiance envers les médias et les journalistes. Et ça peut paraître étonnant, puisqu'ils sont là pour nous aider à mieux comprendre, à mieux déchiffrer l'actualité. Et pourtant, la réalité, c'est que on n'arrête pas de parler de fake news, on n'arrête pas de parler des milliardaires qui possèdent les médias. Et aujourd'hui, finalement, ça devient très compliqué de savoir comment mieux s'informer. Et ça tombe bien, puisque aujourd'hui, je reçois Anne-Sophie Novel, qui est une journaliste, qui est une auteure, une réalisatrice, et qui sort un ouvrage, un petit ouvrage extrêmement bien fait, qui s'appelle « Mieux s'informer, je passe à l'acte ». Et avec elle, on va parler du rôle du digital, du rôle des journalistes. Comment ça se fait, en fait, finalement, qu'il y a une défiance aussi forte avec les médias de manière générale. Donc, je vous laisse écouter l'épisode, c'est vraiment intéressant, je pense, parce qu'on se pose tous cette question, comment mieux s'informer, et on essaye d'y répondre avec Anne-Sophie. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vilain, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Anne-Sophie, comment ça va aujourd'hui?
Bonjour, ça va et toi?
Ça va super. On va parler des médias. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup en ayant moi-même un média d'une certaine manière. Tu parles beaucoup dans ton livre de la défiance envers les journalistes, mais aussi évidemment la presse, enfin les médias de manière générale. Comment s'est installée cette défiance pour toi?
La défiance, elle n'est pas nouvelle, elle a toujours existé. Elle est aussi ancienne que le métier de journaliste. Quand on a vu apparaître le métier de gazetier à l'époque, les grands intellectuels Don Diderot étaient très acerbes à l'égard de la profession qui venait un peu marcher sur leur plate-bande. Et du coup, c'est un truc qui nous colle un peu à la peau. Qui s'est peut-être accru ces dernières années, mais il faut juste retenir que de manière générale, les journalistes sont aussi peu aimés que les banquiers ou que les responsables politiques. Dans les classements, on est toujours entre les deux. Et finalement, voilà, ça fluctue d'une année sur l'autre. Ça, j'avais vu dans les médias Le Monde et Nous, je l'explique, c'est que ça fluctue, ça reste bas. Contrairement à d'autres institutions comme l'hôpital ou l'éducation nationale, ou même l'Église, qui ces dernières années ont vu leur code de confiance vraiment s'écrouler. Mais en fait, les médias, ça a toujours été bas et ça fluctue comme ça. Et donc, en fonction des années, en fonction des... Voilà, il y a des moments où il y a une énorme défiance et donc ça se ressent, et d'autres où ça remonte un petit peu. Je suis très lucide sur le fait qu'on ne pourra jamais retrouver un niveau de confiance énorme vu qu'il n'a jamais existé, à vrai dire.
Mais comment ça s'explique? C'est quand même fou que... Enfin, j'étais pas au courant, tu vois, que ça avait toujours existé, que ça avait toujours été comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une rupture qui s'est créée dernièrement. J'avais pas cette lecture.
Alors, on est dans un des pays où le niveau de défiance est le plus élevé. Ça, il faut, voilà, quand on va un peu plus dans le nord, c'est pas le même cas. Genre, en Norvège, Suède, bon, c'est souvent le cas, mais la France est quand même un pays où on a peu confiance en ses médias et en ses journalistes. Et puis, on a tendance en plus à en faire une généralité. On dit, tous les mêmes. Là aussi, ouais. On les met dans un seul et même grand sac et on met ce sac bien loin à la poubelle. On ne veut pas en entendre parler. Donc voilà. Après, une chose est sûr, c'est que avec la multiplication des réseaux sociaux, une défiance qui avant voilà faisait peut-être partie de la sphère conversationnelle entre proches. Ensuite, c'est en fait transposé sur les réseaux sociaux, donc on peut aussi s'insurger de ce qu'on voit passer dans les médias plus aisément. Et là où il y a eu un tournant qui pouvait être inquiétant, mais pas étonnant, c'est au moment des gilets jaunes. Moi, je sais, on est en train de monter le film Les médias le monde et moi avec Flo Laval, quand on voit les premières manifs de gilets jaunes et Raphaël Maillochon, le reporter de, à l'époque, BFM TV, qui se prend un œuf sur la tête. Et du coup, on a récupéré cette image pour le mettre dans le film, mais en disant, mais en fait, cette défiance, maintenant, elle est sortie des écrans, et dans les manifs, on est pris à partie, nous journalistes, comme étant des messagers un peu faciles d'un, voilà, ou représentants d'une élite, ou perçus comme étant trop proches du pouvoir, etc. Et ça a provoqué en fait un véritable électrochoc dans la profession. Il y a beaucoup de rédactions qui se sont rendues compte au moment des gilets jaunes qu'elles étaient complètement passées à côté d'une réalité sociale, et que les gilets jaunes venaient révéler en fait des vécus qui étaient très peu pris en compte. Et ça a eu cette vertu, en tout cas, de secouer un peu le cocotier. Voilà. Et après, il y a eu l'autre phase liée pour le coup à la pandémie, au Covid, avec d'autres sujets qui ont émergé, d'autres problématiques voilà, liées à la couverture en tant que telle du Covid, liées à des polémiques autour de certains médecins ou des vaccins ou que sais-je encore. Il y a eu la question de la gestion de l'État et personne n'y voyait vraiment clair. Et cette période a encore ajouté son lot en fait, de suspicions, mais aussi bon, peut-être d'autres liens qui se sont tissés avec les médias. Voilà, et c'est pour ça que je parlais de fluctuations. C'est-à-dire que le Covid, les gens se sont retrouvés dans les médias, il y a eu un pic d'abonnement, et donc du coup, on a retrouvé un peu la confiance dans ces médias. Et puis, voilà, mais je pense qu'on est sur un sujet, on n'en est qu'au début de la prise de confiance, on n'en est qu'au début de la prise de conscience du malaise qu'il y a dans notre régime informationnel. Comme on a eu cette prise de conscience sur l'alimentation dans les années 80, avec la vache folle, tout un tas de problèmes sanitaires, avec des symptômes d'obésité ou de famine géante et de problèmes de production, et que Slow Food a dit halte là, nous on veut une alimentation bonne, propre et juste. Sur l'information, on se rend compte qu'il y a une profusion, qu'il y a plein de symptômes très différents, de gens qui sont boulimiques d'informations, qui ont l'impression de contrôler, ils sont très peu nombreux, et pour le reste, c'est des gens qui sont dans la crise de foi ou qui ne s'informent plus. On ressent tous un malaise par rapport à ça. Et puis, ça nous prend un temps d'attention énorme, ça nous manipule aussi d'une certaine manière. Il y a des symptômes d'addiction aussi, hein, qui sont de plus en plus documentés. Des grands flous aussi sur la manière dont on peut discerner le vrai du faux, puis elle est où la vérité dans ce monde aujourd'hui. Voilà, ça c'est un vaste sujet. on en parle de plus en plus. Là, il y a des rapports entre le Reuters Institute il y a déjà quelques années, la Fondation Jean Jaurès qui l'a documenté plus récemment, des travaux de chercheurs et de chercheuses en France qui le documentent. Pas mal de bouquins qui sont en train de sortir. Il y a de plus en plus d'appels autour de cette nécessité de regarder notre régime informationnel différemment, porter un regard peut-être plus nuancé sur la production médiatique et se dire qu'on peut retisser d'autres types de relations entre producteurs et consommateurs d'informations. Et j'utilise ces termes-là vraiment à dessein.
En fait, il y a plusieurs, il y a